Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous continuons aujourd'hui notre étude sur l'évangile de Marc. Pour commencer, Sandra va nous lire Marc, chapitre 12, versets 13 à 17.
Cependant, ils lui envoyèrent une délégation de pharisiens et de membres du parti d'Hérode pour le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire « Maître, nous savons que tu parles vrai et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à la position sociale, mais tu enseignes en toute vérité comment Dieu nous demande de vivre. Dis-nous, avons-nous le droit de payer des impôts à César? Devons-nous le faire ou non ?» Mais Jésus, sachant combien ils étaient hypocrites, leur répondit « Pourquoi essayez-vous de me tendre un piège? Apportez-moi une pièce d'argent que je la voie. » Ils lui en apportèrent une. Alors il leur demanda « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ?»« De César !» Alors Jésus leur dit « Rendez à César ce qui revient à César, et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Ils en restèrent là, tout déconcertés.
Merci. À présent, Alain nous rejoint sur le plateau. Il va nous aider à comprendre cet épisode de l'Évangile de Marc. Bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Ces quelques versets introduisent et abordent la question épineuse de la relation du croyant avec l'État et les autorités civiles. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous rappeler le contexte de ces versets?
Oui, bien sûr. Jésus s'est rendu à Jérusalem accompagné de ses disciples pour y fêter la Pâque. Dans cette ville, nous le rencontrons enseigner la foule assemblée dans le temple. Les chefs religieux n'aiment pas Jésus et ils s'opposent à lui. Ils désirent se débarrasser de lui, ce qu'ils réussiront à faire seulement 2 ou 3 jours plus tard. En fait, comme le texte le révèle, la question qu'ils posent à Jésus concernant le paiement des impôts à Rome est une question piège. Les chefs religieux cherchent à susciter des paroles de la part de Jésus qui justifieront son arrestation.
À première vue, cette question sur le paiement des impôts semble anodine. Pourquoi est-elle une question piège?
Il faut se rappeler que Jérusalem vit sous l'occupation de l'Empire romain, un État païen. Les Romains exigeaient de très lourds impôts. Ils étaient les ennemis des Juifs. Or, le peuple d'Israël aspirait à se libérer de leur joug. De plus, ils croyaient que le Messie promis apporterait cette délivrance. Beaucoup pensaient, espéraient que Jésus serait un tel libérateur et qu'il mènerait un mouvement révolutionnaire. La question sur les impôts est donc une question piège, car quelle que soit la réponse donnée, Jésus risque de contrarier ou décevoir quelqu'un.
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, s'il vous plaît?
En fait, je pense que tout le monde espérait qu'il réponde « Non, ne payez pas vos impôts ». Pour tous ceux qui aspiraient à redevenir libres, une telle réponse irait dans leur sens. Elle leur confirmerait que Jésus est un libérateur politique. Et pour les chefs religieux, cette réponse négative deviendrait un prétexte pour dénoncer Jésus auprès des autorités romaines. Inciter les gens à ne pas payer leurs impôts représente un crime contre l'État.
Cependant, Jésus ne répond pas selon les attentes des hommes. Au contraire, il déclare qu'il est bon et juste de payer ses impôts, même dans ce contexte difficile d'occupation romaine.
C'est exact, Yann. D'abord, Jésus reconnaît qu'il s'agit d'un piège, et il est suffisamment astucieux pour ne pas y tomber. Ensuite, en quelques paroles brèves, Jésus dévoile le fond de sa pensée concernant les relations qui devraient être entre le croyant et l'État.
Quel est donc l'enseignement de Jésus à ce sujet?
Rappelons sa conclusion. Rendez à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. En bref, Jésus enseigne que la foi en Dieu n'est pas incompatible avec la soumission aux autorités. Il est du devoir du croyant de respecter l'État et d'accomplir ses devoirs envers lui, tout comme il est de son devoir de craindre Dieu et d'obéir à sa parole.
Et il faut le rappeler, Jésus donne cet enseignement dans un contexte d'occupation par un État ennemi qui avaient recours à la cruauté et à l'injustice.
Oui, se souvenir de cela est important. Aucun État n'est parfait. Dans tout gouvernement, on rencontre des injustices, des abus et la corruption. Toutefois, selon l'enseignement de Jésus, tout manquement, même très grave, ne justifie pas le recours à la désobéissance civile, telle que le non-paiement d'impôts. Elle ne justifie pas non plus le recours à la violence.
Pourquoi la soumission à l'État est-elle si importante?
La Bible enseigne que les gouvernements existent selon le bon vouloir de Dieu pour assurer la justice et la sécurité des citoyens. Même lorsque l'État échoue dans son devoir, les alternatives peuvent s'avérer pires encore. La désobéissance civile et les mouvements révolutionnaires violents entraînent l'anarchie et la souffrance dans leur sillage. Des cercles vicieux de mal et de malheur s'installent, la sécurité se détériore, les injustices se multiplient.
Cela signifie-t-il que nul n'a le droit d'exprimer son désaccord avec l'État? Cela signifie-t-il qu'on ne peut rien faire pour changer une situation?
Non, nous avons le droit de nous exprimer et de promouvoir le changement. Mais je pense qu'il faut trouver des méthodes qui évitent la désobéissance et la violence. Nous pouvons dénoncer les injustices, la corruption et la cruauté là où elles se trouvent. Cependant, il faut le faire aussi paisiblement que possible et sans tomber dans les mêmes pièges, sans avoir recours nous-mêmes à la violence, sans manquer nous-mêmes d'intégrité.
Pouvons-nous apprendre quelque chose de Jésus à ce sujet?
Le message de Jésus est essentiellement un appel à la repentance. L'Église a donc le droit d'appeler les hommes d'État à se repentir des abus qu'ils commettent. L'Église a le droit d'insister pour que nos gouvernements changent de politique là où des injustices évidentes se voient. Cependant, Jésus enseigne aussi, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Jésus ne nie pas que l'État puisse agir parfois en ennemi. Cependant, toutes les fois que nous sommes confrontés à une telle situation, la question se pose. Comment résister? Comment agir? Tout au long de l'histoire, la vengeance a trop souvent été la solution utilisée par les hommes. Voilà pourquoi Jésus apporte une démarche radicalement différente, l'amour et la prière.
Et comment Jésus a-t-il lui-même mis cet enseignement en pratique? Pouvez-vous nous donner des exemples?
Oui, je pense à deux cas en particulier. Un jour, Jésus a guéri la fille d'un officier de l'armée romaine. Beaucoup auraient dit à cet ennemi, « Non, je ne vous aiderai pas parce que vous représentez l'État qui maltraite mon peuple. » Cependant, Jésus a fait preuve d'amour envers cet homme et sa famille. Il n'a pas refusé de lui faire du bien sous prétexte qu'il était l'ennemi de son peuple. Le second cas exemplaire est celui de la crucifixion. Jésus était victime de la cruauté et de l'injustice des chefs religieux juifs et de celle du gouverneur romain. Cependant, alors qu'il agonise pendu au bois de la croix, Jésus a prononcé ces paroles extraordinaires. « Père, pardonne-leur ». En fait, sur la croix, Jésus a souffert, car il subissait le châtiment du péché, le châtiment de nos péchés, le châtiment des péchés de ses persécuteurs. Existe-t-il un plus grand exemple d'amour que celui de Jésus?
En effet, nous ne pouvons qu'être émus devant un tel sacrifice, une telle expression de compassion. Mais comment voulez-vous à présent terminer notre discussion?
Le sujet de la relation du croyant avec l'État n'est pas un sujet facile. Il suscite des questions et des interrogations et, évidemment, nous ne pouvons pas aborder en détail toutes les situations qui peuvent se présenter. Cependant, en règle générale, il faut le comprendre, nous devons obéir à l'État. Cela ne signifie pas que nous approuvions le mal commis par l'État, mais simplement que la désobéissance et la violence ne sont pas les meilleures démarches ni pour résister à ce mal, ni pour apporter des changements bénéfiques. Prions plutôt pour ceux qui nous gouvernent. Prier, c'est faire confiance au Dieu souverain, à celui qui peut changer les cœurs et le cours de l'histoire. Et puis, nous devons rechercher à être des exemples d'amour, de justice et de paix dans nos villages et nos villes, et quand cela est possible, envers l'État et ses représentants. Recherchons l'aide de Dieu pour savoir comment aimer lorsque l'État ne sert pas nos intérêts. Demandons-lui qu'il nous accorde du courage pour aimer notre prochain alors que nous avons subi injustice ou maltraitance. Tel est le chemin suivi par le Seigneur Jésus. Apprenons de lui.
Merci Alain pour cette discussion enrichissante. Vous serez de retour la prochaine fois pour continuer notre étude dans Marc chapitre 12.
Oui, bien sûr. En attendant, je vous dis au revoir à tous.
Merci. Nous venons de comprendre la pensée de Jésus au sujet de la relation du croyant avec l'État. Dans la suite de notre émission, nous allons découvrir ce que ces apôtres ont écrit sur ce même enseignement. Nous écouterons deux extraits de leurs écrits. Le premier est de l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 13, versets 1 à 7.
Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. Car ce sont les malfaiteurs, et non ceux qui pratiquent le bien, qui ont à redouter les magistrats. Tu ne veux pas avoir peur de l'autorité ? Fais le bien, et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. C'est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts, car ceux qui les perçoivent sont eux aussi au service de Dieu dans l'exercice de leurs fonctions. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent.
Et nous enchaînons tout de suite avec une citation de l'apôtre Pierre dans sa première lettre au chapitre 2, versets 13 à 17.
Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables qui sont des créatures de Dieu, au roi qui détient le pouvoir suprême, comme à des gouverneurs chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés, les ignorants. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit. Aimez vos frères en la foi, et révérez Dieu, respectez le roi.
Merci. Nous constatons sans grande surprise que les apôtres ont repris et développé l'enseignement de Jésus. Nous devons respecter l'État et nous soumettre à nos gouvernements. De même, la meilleure manière de combattre le mal et les injustices, c'est de pratiquer le bien et d'aimer son prochain et son ennemi.
Chers amis auditeurs, nous devons à présent vous quitter, mais Alain sera de retour la prochaine fois pour poursuivre son étude dans Marc chapitre 12.
En attendant de vous retrouver bientôt, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.